Bien les enfants, reprenons notre leçon d'histoire.
Avec le témoin de ce vendredi, Mara Goyet, professeur d'histoire, géographie et d'éducation civique.
Devant les grilles du lycée, ils sont une dizaine.
C'est une insulte envers les musulmans parce que déjà, même nous, notre prophète, on n'ose même pas le dessiner. Pourquoi c'est une personne comme lui qui va venir le dessiner?
Il faut assumer, après il y a des conséquences.
Juste à côté de lui, Moussa.
Bon, pour moi, il fallait pas la faire la minute de silence en tout cas. On fait des minutes de silence pour des gens qui nous manquent de respect. Ouais. C'est triste qu'ils soient morts, hein, mais c'était un manque de respect ce qu'ils ont fait, les caricatures du prophète là. En tout cas, moi je ne suis pas Charlie en tout cas.
Il y a aussi eu des avis contraires, une ambiance plutôt triste je dirais. Tout le monde était bouleversé.
Le nombre d'incidents que provoquent dans les établissements scolaires l'évocation des récents attentats est difficile à mesurer. Les chiffres sont en effet fournis par l'Éducation nationale, dont on sait que l'appareil visuel est celui d'un poisson froid. En revanche, les médias sont une bête à sang chaud qu'il faut nourrir et les reporters sont invités par leur rédacteur en chef à rapporter des grilles des établissements scolaires, des sujets qui sentent le ragoût. En fait, c'est tous les jours que les enseignants ont à s'interroger sur le comportement d'adolescents qui souffrent non seulement des difficultés propres à leur âge, mais de la confusion de l'époque. On a peur de ce qu'on en a fait, de ce qu'ils pourraient faire. Souvent, on se demande qu'en faire. C'est Mara Goyet qui écrit cela. Professeure de collège depuis des lustres et dans différents types de collèges, elle est bien embarrassée parce que les mêmes difficultés peuvent se retrouver dans tous les quartiers. Elle se fait l'impression d'une femme de ménage qui quotidiennement essaierait de remettre des mots exacts sur les choses. C'est un métier vraiment impossible et en règle générale, elle l'adore.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Mara Goyet, bonjour.
Bonjour.
Alors, on connaît dans la revue Le Débat, vos articles assez délicieux sur l'école, vos livres évolutifs, jamais répétitifs, sur vos expériences de collège, depuis combien d'années déjà ?
18 ans.
C'était l'époque où le vert, c'était la couleur de l'équipe de foot.
De Saint-Étienne ?
De Saint-Étienne, oui.
Non. Déjà plus, non ?
Déjà plus. Jules Ferry et l'enfant sauvage, c'est le dernier volume que vous ayez publié. Flammarion, puis vous tenez un blog sur le site du Monde. Et vous allez ouvrir un blog avec vos élèves du collège du centre de Paris où vous êtes maintenant, après avoir été dans la Seine-Saint-Denis, ZEP pendant des années, et dans le 15e.
Voilà, ouais, le démon du collège dans lequel ils vont raconter leur vie de collégien.
Et il y en a qui sont très talentueux dans l'écriture, qui ont l'esprit bien organisé pour écrire dans un site. Alors, hébergé par Le Monde.
Beaucoup écrivent vraiment très très bien. Le problème, c'est la prédilection pour les sujets vraiment potaches. Les pires défauts des profs, leurs pires tics, comment tricher. Mais sinon, c'est très bien.
Alors, commençons par ce qui s'est passé. Par exemple, depuis la manifestation de dimanche, vous avez le sentiment qu'ils ont eu envie assez vite de parler d'autre chose. Et au fond, ils ont le droit de ne pas être émus constamment.
Voilà, j'ai parlé avec eux des attentats vendredi, avec deux de mes classes. Et je me suis demandé ce que j'allais leur dire. C'est compliqué pour un professeur. J'aimais bien Charlie Hebdo, j'ai été élevée dans la culture harakiri. Pour moi, c'était très important et très bouleversant. Et puis, j'avais préparé tout un tas de choses. Et puis, en étant devant eux, je me suis dit, mais je n'ai pas à leur imposer mon émotion. Donc, j'ai commencé par leur dire, voilà, vous avez le droit de ne pas être ému, de ne pas sentir la portée de l'événement. Vous avez le droit de vivre votre vie. Et qui connaît Charlie Hebdo ? Et pratiquement aucun des élèves ne connaissait vraiment Charlie Hebdo, il connaissait un peu Cabu.
Oui, mais alors ils vous ont demandé, dame, on peut voir Charlie ?
Voilà, et là, grave question, comment leur montrer une de Charlie Hebdo ? Et j'ai choisi de ne pas le faire parce que Charlie, ça me semble être un contre-pouvoir au sérieux scolaire. Justement, ça me semble bordéliser l'école et je ne vais pas bordéliser l'école de l'intérieur dans mon propre cours. Et puis, je ne peux pas leur montrer des photos qui sont choquantes et qui sont faites pour choquer, parce que c'est ça qu'on est en train d'oublier, c'est que Charlie Hebdo, c'est fait pour choquer, c'est fait pour secouer les gens, c'est des uppercuts, et c'est pas Fripounet ni le journal de Mickey. Du coup, c'était très compliqué de devoir parler de Charlie Hebdo sans le trahir, sans rien montrer, tout en expliquant ce que c'était. Mais les élèves posent des questions, et puis on a parlé du fait d'être choqué. Qu'est-ce qu'être choqué ? Et pourquoi il était impossible de tuer les gens parce qu'ils vous avaient choqué.
Mais vous, vous acceptez de montrer Charlie Hebdo à vos filles ? Ou à vos fils ?
Oui, si mes enfants lisent Charlie Hebdo,
chez vous,
pas
oui.
Du tout. Oui, moi je ne suis pas très prude pour ce genre de lecture. Je les abonnerai pas, mais...
Dame, vous avez vu la tête du prophète sur la une ? L'un
ouais,
vous a dit ça.
Ils m'ont fait remarquer que la nouvelle une du Charlie Hebdo, il était un peu ictifalique, comme on dit.
Oui, ça, vous aimez bien les mots compliqués.
J'aime bien.
Donc, chacun cherchera
traduire.
Dans le dictionnaire. Et il y a un souci, de toute façon, de chercher dans le détail.
Oui, de toute façon, quand ils regardent une image, et ça rejoint la prédilection pour le complotisme qui sévit chez la jeunesse, ils ne regardent pas l'image, ils ne regardent pas ce qui est écrit, ils cherchent ce qui pêche, ce qui manque, et ce que ça peut vouloir dire, le sens crypté. Ils font du décryptage qui vire, au bout d'un moment, à la recherche de complots, d'images cachées. De...
Dame, sur l'image, là, pourquoi le rétroviseur il est blanc et puis après il est noir ?
Voilà, là, ils pensent immédiatement que c'est un montage et au bout de 10 minutes, certains, grâce aux réseaux sociaux, ont conclu que François Hollande a organisé l'événement. Enfin, l'événement, l'attentat.
Ah, l'événement, l'attentat, parce qu'on va parler de Charlie, mais il y a aussi les attentats du lendemain qui, souvent, sont moins évoqués dans les classes, on en parlera. Je reviens quand même à la surprise que peut provoquer Charlie. Vous nous avez expliqué dans des articles, Mara Gueuillet, que dans les foyers les mieux pensants, le catalogue de la Redoute apparaissait avec des sextoys qui étaient en vente sur des pleines pages couleurs. Shérif Kouachi lui-même, il avait des vidéos porno sur son ordinateur. Alors pourquoi ça choque, Charlie ?
Mais parce que, quoi qu'on en dise, l'institution scolaire tient son rôle et les élèves trouvaient ça insupportable que je leur montre des images obscènes. Déjà, si je dis un gros mot, ils sont choqués, ils ont l'impression que j'ai trahi et profané le sanctuaire scolaire. Donc même les élèves eux-mêmes ne voudraient pas que je leur montre... ils tentent leur chance, mais si je leur montrais, ils seraient choqués. D'ailleurs, un professeur vient d'être suspendu parce qu'il a montré la une de Charlie Hebdo.
C'est curieux, ça. C'est des injonctions contradictoires de la part du ministère de l'Éducation nationale.
Oui, mais parce qu'il n'avait pas encore sorti sa super mallette pédagogique spéciale attentat.
On y viendra à cette perspective. Goût du gore, goût de la parodie. Grande préoccupation chez les élèves de 4e et 3e que vous avez au collège pour les questions sexuelles. Et goût de la provocation. Je vous propose d'écouter un extrait du film de Laurent Cantet qui se passe dans un collège du 20e arrondissement, avec dans le rôle du professeur Laurent Bégaudeau qui, à force de solliciter la participation des élèves, évidemment n'est pas à l'abri de voir ses cours partir en vrille.
Bill déguste un succulent cheeseburger.
Et pourquoi vous arrêtez pas de mettre des billes là ?
Des billes.
Pas des billes, mais billes là. Toujours des noms bizarres là. Pourquoi vous mettez pas...
C'est pas du tout un nom bizarre, c'est un nom de président américain récent, je te rappelle. Bill.
Ouais, mais pourquoi vous mettez pas Aïssata ou Rachid ou Mohamed ou...
Vous mettez tout le temps des noms de pathos aussi.
C'est quoi des noms de...
Des noms de...
Babtou. C'est quoi Babtou quoi ?
C'est-à-dire de français, de
la France.
C'est franc.
Mais t'es pas française, toi, Esmeralda ?
Non, moi je suis pas française. Hein.
Ah bon ?
Bah ouais.
Ah, j'étais pas au courant.
En fait, je suis française, mais je suis pas fière de l'être alors.
Oui, mais enfin, Kumba, tu comprends bien que si je choisis à chaque fois des prénoms en fonction des origines diverses qu'il y a dans cette classe, je vais pas m'en sortir.
Bah, changez un peu.
Ah, qu'est-ce que tu me proposes ?
Mamadou, Bintou,
Aïssata, Fatou, non.
Non, Aïssata.
Aïssata,
Aïssata.
Alors là, on a une théâtralisation des rôles.
Et puis on a professeur contesté et on a un cours qui n'est pas loin du chahut. Mais le plus inquiétant, c'est quand un cours est calme, qu'il n'y a pas de contestation, ce n'est pas des minutes de silence, ce n'est pas des cours qui sont compliqués comme le cours consacré à la Shoah en troisième. Ce qui est très inquiétant, c'est quand c'est un cours tout à fait paisible, normal, avec des élèves gentils où il n'y a aucun problème et que tout d'un coup, on dit à une élève, tiens, ben, on étudie la Bible, on dit, tiens, mais ton prénom, Myriam, c'est un prénom biblique.
Et alors Myriam, c'est un prénom biblique, rappelez aux auditeurs.
Oui, oui, c'est un prénom biblique.
Et on peut l'utiliser aussi bien dans l'islam que dans le christianisme.
Oui, il est assez répandu dans toutes les religions. Et qu'une élève fait comme ça. Ou alors, quand on se balade dans un couloir avec une canette de coca et que vous croisez une élève qui est absolument charmante et qui vous dit « Madame, vous ne devriez pas boire du coca, vous financez les juifs qui tuent les bébés palestiniens ». C'est dans ces moments-là que c'est le plus terrible, parce qu'on voit que c'est profond, que c'est répandu, que c'est commun. On n'est pas dans la provocation, on n'est pas dans la contestation. Une minute de silence, après tout, on comprend, même si c'est pénible, que des adolescents confrontés à une exigence de solennité voilà, se défendent ou chahute. Dans des contextes comme ça, c'est compréhensible. Même si
vous-même,
c'est pas
vous
bien.
Vous dites, moi-même, si j'avais eu des minutes de silence à l'école, avec le tempérament que j'ai. Oui, bon.
Oui, je ne suis pas sûre que j'aurais été extrêmement sage ni recueillie.
Mais là.
Mais là, quand on ne s'y attend pas, c'est terrible, parce qu'on mesure l'étendue. Ce n'est pas deux gamins radicalisés qui sont insupportables et cherchent à pourrir votre cours. C'est des petites filles de 6e, pratiquement avec des couettes et des robes à smoke, qui vous disent ça. Et ça
y compris dans les quartiers centraux de Paris.
Oui, partout. Oui.
Mais alors, comment
donc on imagine que c'est ailleurs.
Comment expliquez-vous ça? Vous n'allez pas me dire que c'est le vieux fond structurel, antisémite, d'une partie de la population ou de l'histoire française. Il y a peut-être des explications par les informations telles qu'elles circulent aujourd'hui, en dehors des grands moyens d'information parfaitement responsables comme le nôtre.
Oui, je crois qu'à la fois dans les familles, entre camarades, sur les réseaux sociaux, il y a un fond d'antisémitisme massif qui circule. C'est pas pour eux une opinion, c'est une donnée culturelle. C'est ça qui est inquiétant. Et c'est une donnée culturelle qu'on peut ne jamais voir quand ça sort pas comme ça au débotté. Parce que quand c'est de la provocation, on lutte contre la provocation. Quand c'est une minute de silence, on s'alarme. Et de toute façon, on est dans des contextes de crise. Donc, ce n'est pas le moment de régler le problème. Mais en tout cas, c'est là, oui. Et c'est extrêmement inquiétant.
Vous dites que les réseaux sociaux vont avoir beaucoup d'importance dans la diffusion de ce type d'informations.
Oui, à la fois les réseaux sociaux, mais à la fois les... Vraiment, c'est comme nos vieilles expressions, je ne sais pas, vieux comme Hérode, les expressions sur antisémites fleurissent. Ça fait vraiment partie du quotidien pour beaucoup, beaucoup d'élèves.
Vous avez trouvé une jolie formule, le dupe éclairé. Nous sommes des dupes qui veulent nous éclairer.
Mais oui, là, on a des élèves qui ne vivent pas dans un obscurantisme total. On a des élèves qui sont intelligents. On a des élèves qui peuvent être cultivés. Et je crois que l'école fait, même si elle ne marche pas bien, fait son travail, transmet de la culture autant qu'elle le peut. Et on a des élèves, ce n'est pas par ignorance, c'est par surinformation qu'ils en viennent à penser des choses comme ça. C'est-à-dire qu'ils reçoivent de partout des informations soit antisémite, soit complotiste, enfin, c'est des analyses d'images. On est passé du décryptage à la paranoïa la plus totale et ils naviguent à vue, saturés d'informations, sans même plus savoir ce qui est vrai ou faux, ou probable ou pas. Tout est possible. À partir du moment où tout est possible, les thèses complotistes sont assez séduisantes.
En cherchant le détail, la forme de la coiffure du prophète, la couleur du rétroviseur dans une image prise porte de Vincennes, avec dans le manuel un détail aussi qui va les étonner, qui va les occuper. Rôle des réseaux sociaux, chercher aussi le détail chez l'élève un peu faible. On va passer maintenant au moyen de riposte, si le mot riposte est tout à fait approprié. Voici un extrait d'un film de sensibilisation sur les dangers des réseaux sociaux, Mara Goyet, qui a été produit par un projet social de territoire à Évreux.
Salut, ça c'est moi, Morgane. J'ai 15 ans et je suis en 4e. Je vais vous raconter comment Facebook a failli détruire ma vie. Au début, pourtant, tout allait bien. Mais un jour, les choses ont changé. Partout où j'allais, on me surnommait l'intello ou la chialeuse. Puis les jours passaient, puis la situation empirait.
Oh la chialeuse, hop là l'intello.
Les choses sont devenues vraiment invivables quand quelqu'un a commencé à se foutre de moi sur Facebook. En quelques clics, tout le collège était au courant. Je me sentais de plus en plus seule et isolée. Même mes amis ne me parlaient plus et je ne savais plus à qui me confier, comme si j'existais plus. Au contraire, j'étais devenue la risée de tous mes anciens camarades.
La vieille meuf.
Derrière leur écran, ils partageaient, publiaient, aimaient et commentaient des statuts, des photos, mais ils se rendaient pas compte du mal que ça pouvait me faire.
Eh hey les gars, Luc là de la 3ème 4, faut que je le traumate. Il ressemble à rien quand il se trimballe, je vais y faire trop mal. Et être son chorégraphe chaud comme s'il était au bal. Même son prénom de merde en verlan signifie trou de balle. Je lancerai l'assaut et on envoie tous des vannes en rafale. Pour qu'il aille se cacher plus discret qu'un gars en cavale. Quand t'apprends le foot, c'est dans sa tronche qu'on lancera la balle. Chut, t'y sors du haut, la fête comme si on avait remarqué que dalle. Mais regardez-moi cette espèce de guignol. Dans la cour, je veux qu'il court, ça va lui faire les guiboles. Hey, sale pouilleux, vite, viens par ici, crois pas que je rigole. Et appelle-moi coach, tu gagneras le cross, même s'il fait 10 bornes. Faut que t'innoves, survête avec des chaussures de ville. T'inquiète, je te laisserai tranquille si tu respectes ce deal. Mais si dans 3 jours t'as pas fait ça, je risque de me fâcher. N'oublie pas que maintenant t'es qu'une cible, donc je vais pas te lâcher. Sale tête à claque, t'as pas honte, regarde comment tu te sapes. Écoute-moi et baisse pas le regard si tu veux pas que je te frappe. T'as pas d'amis pour que tu te promènes, on va t'offrir un chiot. Le jour de ton anniversaire, je te jure que tu vas vomir à flot. Au fait, dis-nous où est-ce que tu comptes aller l'année prochaine. On prendra tes nouvelles jusqu'au lycée professionnel. Tu peux devenir clochard, pour moi c'est du pareil au même. Je vais être ton pire cauchemar, tu trouveras plus jamais le sommeil.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec le témoin de ce vendredi, Mara Goyet, professeur d'histoire, géo, son blog sur Le Monde, bientôt sur le site du Monde aussi, le blog de ses élèves, Jules Ferry et l'enfant sauvage, son dernier livre aux éditions Flammarion. Il fallait bien un peu de rap, et c'est pas vous qui allez expliquer qu'il faut faire sans le rap, parce que même dans le collège du 7e arrondissement, où vous êtes... On doit parler comme ça. Hé, hey, sale pouilleux, appelle-moi ton coach, je vais être ton pire cauchemar si tu te tiens pas bien. Et,
non, mais
et
là, il parle comme chez Molière, c'est complètement contre-productif. Ce rap, voilà, vous passez ça à des élèves.
Ils rigolent.
Ils le chantent, d'abord ils le rigolent, ensuite ils en font une parodie dans les 5 minutes avec leur vrai vocabulaire, et ensuite ils le chantent pendant une semaine, et même moi je l'ai déjà dans la tête. Là.
Mais ça vous enchante, vous, justement, cette capacité de production de vos élèves, et puis il faut faire de l'histoire avec ce qui se fabrique au présent.
Oui,
c'est pas la peine
faut...
d'essayer de mimer l'ancien.
Non, et il faut être, mais il faut être encore capable de voir les événements tels qu'ils sont. Là, c'est, là on est par exemple dans ce petit sujet de prévention et rap de prévention. On ne regarde pas les choses en face. On n'est ni dans le vocabulaire, ni dans la réalité, ni on ne se confronte pas aux choses.
Alors expliquons. La pression est en train de monter sur l'école et au ministère de l'Éducation nationale, on va, j'emploie des gros mots, hein, pixeliser. De même que nous, dans le journalisme, on a décrypté.
Oui, voilà, comme tout le monde est très perdu, on a du mal à assumer la complexité de l'événement. D'abord, il y a eu plusieurs attentats, 3 jours de suite. On a du mal à comprendre comment des jeunes gens élevés en France, passés par l'école, en viennent à commettre des choses aussi monstrueuses. Et comme on est paumé, on cherche des détails. Alors, on va chercher les jeux vidéo, on va chercher les renseignements, on va chercher la prison. Et là, la dernière mode, depuis quelques jours, c'est l'école. Alors, certains sont quand même tentés de penser que l'école produit des terroristes, mais ils ne vont pas jusque-là, mais j'attends. J'attends qu'on dise, oui, voilà, force de être déculturé, les problèmes d'orthographe, le professeur laxiste, on en est là. Donc c'est extrêmement compliqué. On cherche à mettre le projecteur sur quelque chose, à analyser sans regarder. Du coup, tout le monde regarde du côté de l'école. Mais ça ne veut pas dire que l'école n'a pas son boulot à faire, non seulement après les attentats, mais en général pour empêcher que ce genre d'attentats survienne.
Alors, balancier, je ne vais pas vous présenter comme vieux jeu maintenant, mais vous vous dites, à force de décrypter, de faire de la dentelle, d'être dans le détail, dans les parties de billard à 3 bandes, on oublie l'essentiel. Bon, bah, quand il y a un langage qui est insupportable... On arrête, on fait preuve de fermeté.
Oui, qui est le contraire de la rigidité, qui demande une, force, une forme de souplesse. Mais voilà, quand un élève dit quelque chose qui est tout bonnement insupportable, je ne sais pas, quand il dit « oui, il méritait d'être tué » ou « parce qu'ils avaient fait des caricatures » ou quand ils disent « ça va, l'attentat de l'hypercachère, on s'en fiche, c'est toujours les mêmes ». Il y a un moment, il faut être ferme. On a un peu tendance, par esprit de nuance, esprit de finesse, à découper la question en 12 000 et à faire des détours par l'antisémitisme à l'âge de pierre, chez Maurras et l'antisionisme, à faire 12 000 distinctions pour ne pas se poser des questions, à faire une analyse de l'histoire d'Israël depuis 1948 et avant. C'est infernal. Il y a un moment où il faut être ferme. Il faut de la cohésion, de la fermeté et ne pas laisser passer... au nom de la nuance et de la discussion. Je crois qu'on a parfois en face de nous une certaine forme de radicalité, Et que nous, on est très doux et très gentils.
Alors, vous n'allez peut-être pas réagir positivement aux propositions qui est faite ici par une porte-parole du ministère de l'Éducation nationale. Le terme de poisson froid pour désigner l'appareil administratif du ministère de l'Éducation nationale que j'ai utilisé, je voulais emprunter.
Oui, oui, je trouve que c'est tout à fait ça. Alors, c'est pas même quand ils sont dans l'émotion, ils sont froids. C'est-à-dire tout se traduit en kit, en mallette, en compétences, en items. Il y a un refus de voir le tragique, les problèmes, la globalité de l'échec scolaire. Ça ne veut pas dire que tout le monde est en échec scolaire, mais il y a un refus de voir les choses telles qu'elles sont.
Vous n'y croyez pas aux kits, vous? Pourquoi? Il y a des kits pour bien se conduire, devant les feux rouges, les passages cloutés, pour se protéger des agressions sexuelles. Ça, ça existe. Il y aura bientôt des kits pour se protéger de tout et des kits pour faire le travail de deuil.
Oui, il y a des kits, il y a des cellules psychologiques qui...
Même ici, à France Inter, vous savez.
Oui, qui circulent dans toute la France, un peu comme les cirques l'été. C'est...
Ah, vous imagineriez ça?
Oui, avec un petit haut-parleur dans votre ville ce soir, une cellule psychologique au cas où vous auriez perdu un proche. Il y a un refus du tragique et de l'événement tel qu'il surgit et tel qu'il est. Et cette manie des kits, des mallettes, des 10 compétences à avoir pour affronter un attentat, ça me semble grotesque.
Mais des nouveaux programmes, j'annonçais la numéro 2 du ministère de l'Éducation nationale, Florence Robine, au micro d'Emmanuel Davier.
Il ne peut pas y avoir une heure le mardi de 9 à 10 où on fait l'enseignement des faits religieux. Avec quels enseignants? L'enseignement des faits religieux, ce n'est pas du prosélytisme, ce n'est pas du travail du dogme. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est que ça soit un fait transversal, travaillé par tous les enseignants, quelle que soit la discipline dont on parle à un moment donné aux élèves.
Certains pensent que la religion, c'est un sujet tabou à l'école. Qu'est-ce que vous leur répondez?
La religion n'est pas un sujet tabou. Par contre, nous avons un devoir de laïcité. Et c'est bien expliquer cette laïcité qui doit être notre quotidien. Ça veut dire que la religion, elle est mise à distance également par rapport à un certain nombre de valeurs. Ça ne veut pas dire qu'on n'en parle pas, ça veut dire qu'on la réinterroge par rapport à des faits qui sont des faits culturels, des faits citoyens. Et c'est plutôt justement ce que nous souhaitons faire dans l'enseignement qui va être généralisé à partir de la rentrée prochaine et sur lequel nous sommes en train de travailler avec les enseignants, qui est l'enseignement moral et civique. Voilà. Comment est-ce qu'on peut redonner une autre dimension à l'ensemble de ces valeurs et remettre ça dans une logique de citoyenneté, de valeurs de la République.
Alors vous avez vu que Jacques Lang, c'est le coach des jeunes ministres socialistes, il a recommandé à Madame Vallaud-Belkacem, qu'il a vu hier, n'empilons pas de nouveaux programmes. Mais justement, l'enseignement moral et civique dont il est question ici, c'est déjà en route avec des propositions du Conseil supérieur des programmes. Il y aura 4 cultures, je cite, la sensibilité, la règle, le jugement et l'engagement et, Mara Goyet, 21 compétences à travailler.
Oui, pixelisons, on ne sait plus.
Pixeliser, ça veut dire faire dans le détail, c'est
oui,
ça?
Oui, on fait dans le détail, c'est-à-dire que c'est tellement plus immédiat ce que c'est que d'être ferme moralement et civiquement qu'on est obligé de diviser ça en compétences, en petites notions. Alors, je les ai lues, les propositions pour les futurs programmes, c'est plutôt bien, mais là, ce qu'on a entendu il n'y a pas longtemps, on a l'impression qu'on réinvente l'eau chaude. Ça fait très longtemps. Enfin, on ne vient pas d'inventer la laïcité quand même à l'école. Ça fait très longtemps qu'on en parle, qu'on fait des cours. Et ce dont on a manqué là, mettons cette semaine ou la semaine précédente avec les attentats, ce n'était pas de 2 heures d'éducation civique. Ce n'est pas « Ah, c'est dommage, avec des bons cours de morale laïque, on aurait évité des attentats ». Non, ce n'est pas ça du tout. Ce qui manque vraiment à l'école, je pense que c'est une attitude collective. Et vraiment, je me sens aussi bien concernée que mes collègues. Je ne me sens pas différente pour ça. Je crois qu'on est fatigué de devoir lutter pour la laïcité. On est fatigué de devoir lutter contre des petites incivilités ou des petits propos radicaux. Là, je crois qu'il faut qu'on se réveille, qu'il y ait un sursaut collectif et qu'on soit ferme. C'est une question d'attitude, pas d'heure en plus. On va expliquer la laïcité. La laïcité, c'est une règle. Elle doit être appliquée et c'est pas... 4 heures en EPS consacrées à la laïcité qui vont changer la vie.
En EPS?
Le sport.
Ah,
mais si on
d'accord.
Dit sport, les
parce que,
collègues
j'ai noté
sont vexés.
Que j'ai noté que vous, avec votre casquette de professeur d'instruction civique, vous n'aviez pas trop envie de donner dans ce domaine-là. Quand il y a des difficultés, qu'on est dans une ZEB de la Seine-Saint-Denis, vous dites Seine-Saint-Denis plus que 93, on va voir les policiers. Vous avez beaucoup d'expérience dans ce domaine et des expériences dont vous avez tiré, comme souvent, des conclusions paradoxales.
Mais oui, il nous est arrivé, quand j'étais dans mon collège de ZEP, d'aller au commissariat complètement dépassé par certaines situations, ou pour aller porter plainte, ou pour aller leur dire qu'on s'en sortait pas. Et on avait des discussions vraiment hallucinantes avec les policiers qui nous disaient « Alors, montrez-moi qui vous avez dans vos classes. » Et on leur faisait la liste des élèves qu'on pouvait avoir dans une même classe et nous disaient « Ah bon, vous y arrivez ?» Mais un de ceux-là, tout seul en garde à vue, « Je ne m'en sors pas, je m'arrache les cheveux. Comment faites-vous ?» Et là, on en était venu, en fait, alors qu'on se sentait dépassé et triste, à consoler les policiers.
Parce
et
que vous recommanderiez que les professeurs accompagnent les policiers dans leurs tâches. Parce que d'habitude, on a la première idée, il n'y a qu'à mettre un policier au fond de la classe.
Non, je pense qu'on aurait beaucoup à apprendre à la police, qui en ce moment est très aimée depuis une semaine. Mais oui, je crois qu'on aurait quelque chose à leur apprendre sur l'autorité et sur la façon de s'adresser aux jeunes. Ça se passe mieux en classe qu'avec la police, en tout cas, ça, c'est sûr.
Mais vous vous posez aussi une question, Mara Goyet, parce que les professeurs vont être sollicités d'anticiper les déviations éventuelles d'un certain nombre d'adolescents sur le comportement que vous auriez eu, je ne sais pas, moi, face à Shérif Kouachi, face à Mehdi Nemouche, l'auteur des attentats en Belgique, face à Mehdi Koulibaly. Je prends ces trois noms parce que voici trois témoignages de leurs proches pendant l'adolescence, qui ne correspondent pas exactement à un portrait robot de futur criminel.
C'était Shérif. J'étais en CM1, CM2 avec lui, je jouais au foot. On partageait les croissants, les pains au chocolat ensemble. Et ce visage, bah, aujourd'hui, on le voit à la télé et on voit qu'il a un sang-froid affolant pour tuer des gens. J'y comprends rien aujourd'hui.
Moi, quand je l'ai connu, il pratiquait pas la religion. Quand il est revenu, je pense qu'il faisait la prière, mais rien de méchant, quoi, si vous voulez. Ce que j'en pense, écoutez, on est tous choqués. On n'est pas bien. Et on s'y attendait pas.
Il était croyant, mais même pas pratiquant, donc il n'y avait pas la prière, pas la mosquée. Vraiment, c'était quelqu'un de gentil, on ne le voyait pas du tout être un intégriste comme ça. J'ai été surpris, justement, de voir que c'était lui, quoi. Parce que vraiment, je ne m'y attendais pas à que ce soit lui un intégriste, terroriste. Des gens en otage, on ne voyait pas du tout comme ça, vraiment, c'est pas sa personnalité.
Ces individus pixelisés, diriez-vous, il leur arrive d'apparaître dans leur fêlure aux enseignants.
Oui, parfois, c'est compliqué. On voit des élèves, on se dit, tiens, lui, il est en train de décrocher, il est en train de s'énerver, il est en train d'être pénible, il commence à avoir des attitudes vraiment violentes, par exemple, à donner une claque à une élève qui mange du porc à la cantine, ou alors ils se mettent à mettre la main aux fesses d'une camarade et tout ça. Et là, on va parfois au-delà de son surmoi enseignant qui ne veut pas voir ça et se dire, est-ce qu'il pourrait pas très mal tourner ? Alors, on se pose la question. Évidemment, on ne va pas aller au commissariat en disant « Je crois que j'ai un futur terroriste dans ma classe » parce qu'on se sentirait grotesque et insupportable de déterminer un élève comme ça. Mais on a parfois des petits pressentiments. Et le problème, c'est la réponse qu'on apporte. C'est-à-dire, que fait le système scolaire quand un élève est complètement à la dérive ? Il l'exclut de son établissement, puis il sort du système scolaire.
Vous êtes devant des injonctions contradictoires. On a employé le mot « commémorer Charlie sans l'ouvrir », »,« les faire parler » et les faire taire. On demande vraiment beaucoup trop aux profs.
Mais on demande beaucoup à l'école. Avant, le tout sécuritaire, c'était de mettre un policier derrière chaque individu. Maintenant, on est dans le tout scolaire. On voudrait un prof derrière chaque enfant. Et on nous demande beaucoup, beaucoup. Et je crois que c'est possible, mais à condition de varier les moments et les temps. Là, cette semaine, ce n'est pas le moment de faire 15 000 heures d'éducation civique et de mettre tout sur le tapis. Il y a des moments où il faut faire taire les élèves et leur dire c'est comme ça, et être ferme et être sûr des valeurs de la République. Puis il y a des moments plus calmes, plus inattendus, où on doit parler et leur faire dire ce qu'ils ont dans la tête pour pouvoir
mettre un discuter peu avec eux, mettre un peu ménage. D'ordre.
Oui, oui. Oui. Oui, mais on a besoin aussi, nous, enseignants, d'avoir un peu d'ordre dans la tête. On est très timoré quand même, on est précautionneux, on est étrangement très peu radicaux et plus très sûrs de nous.
Et un peu pixelisés.
Un peu aussi.
Merci à vous, Mara Goyet. Jules Ferry et l'enfant sauvage, votre dernier livre, très drôle à lire, comme toujours, vos textes chez Flammarion. L'émission était réalisée par Jacques Sigal avec à la technique David Federman.